Histoire Actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, commentaires des historiennes et des historiens sur l'actualité de la semaine et actualité des parutions. En toute fin de cette émission, nous reprenons notre séquence hebdomadaire « C'était à la une » avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Rétro News, lecture d'un texte par un comédien, un texte de presse des deux derniers siècles, ce matin à 7h50, un reportage scandalisé sur le Berlin des années 1920. Auparavant, Sylvie Steinberg, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, viendra nous parler de l'ouvrage collectif paru au PUF il y a deux jours, qu'elle a dirigé, Une histoire des sexualités, un ouvrage avec d'autres historiennes, Christine Barr, Sandra Boringer, Gabriel Hoube et un historien, Didier Lette, qui fait le point, une synthèse très complète sur l'histoire des sexualités. Mais auparavant, en ouverture de cette émission du vendredi, nous ressuscitons ce matin une séquence de la première Fabrique de l'Histoire en 1999 qui s'appelait Archives pour demain. Nous prenons un son d'actualité de la semaine dont nous parions que ce son deviendra une archive et nous la faisons commenter, cette archive, par un historien ou une historienne comme dernier maillon d'une chaîne historique en cours ce matin. C'était mardi dernier sur France Inter, Nicolas Hulot.
Sur le bureau d'un Premier ministre, il y a des exigences sociales, des exigences humanitaires, j'allais dire, qui légitimement relèguent toujours sur le côté les enjeux du long terme, qui prennent notre société de court. Parce que c'est une telle remise en cause. Et on reste toujours avec cette illusion que l'enjeu écologique, et derrière ce mot, il porte même sa contradiction tant il paraît réducteur, c'est un enjeu culturel, sociétal, civilisationnel, et on ne s'est pas du tout mis en ordre de marche pour l'aborder comme cela. Moi, je demeure dans ce gouvernement à la manœuvre d'une transition sociétale et culturelle, mais je suis tout seul à la manœuvre.
Vous êtes tout seul dans ce gouvernement.
Écoutez, il faut se dire les choses franchement. Le Premier ministre, le Président de la République ont été, pendant ces 14 mois, à mon égard, d'une affection, d'une loyauté, d'une fidélité absolue. Mais au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité? Est-ce que j'ai une formation politique? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Est-ce que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité du gouvernement? Est-ce que c'est simplement la mienne? Parce que moi, mes choix, toutes les contradictions de notre société, mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles, la vérité, elle est celle-là. Mmh. Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique, eh bien la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non.
Bonjour Stéphane Friou.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lyon 2. Vous êtes spécialiste d'histoire environnementale. Vous venez de publier dans un dernier numéro du Mouvement Social aux éditions de la Découverte un éditorial, mais aussi un numéro complet autour de l'histoire environnementale. Vous aviez coordonné aussi un numéro de 20e siècle sur la question du ministère de l'Environnement et de son histoire. Tout cela, vous faisiez le meilleur peut-être des historiens et des historiennes français pour commenter cette déclaration de Nicolas Hulot. C'était mardi dernier sur l'antenne de France Inter. Il annonçait ensuite sa démission, mais nous avons choisi de vous présenter les prolégomènes à sa démission, c'est-à-dire une sorte de constat très alarmant. Est-ce que ce discours-là est un discours qui s'inscrit, Stéphane Friou, dans la longue histoire des discours des ministres de l'environnement, de l'écologie, du développement durable?
Oui, alors tout à fait. Hein. On retrouve dans ce que dit Nicolas Hulot un certain nombre de d'idées déjà exprimées par Robert Poujade dans son livre intitulé « Le ministère de l'impossible », publié en 1975. Alors dans son livre, Robert Poujade revient sur son expérience.
Il était le premier ministre de l'environnement en France.
Voilà. Alors Robert Poujade, pour le présenter rapidement, c'est un politique. Hein. C'est pas du tout un naïf. À 40 ans, il était secrétaire général du parti gaulliste. Il a côtoyé De Gaulle, il a côtoyé Pompidou. Et à la faveur d'un remaniement technique, on va dire ça comme ça, début janvier 1971, il est propulsé au rang de ministre, alors qu'il ne l'avait pas été. Il était plutôt spécialiste des questions éducatives, mais il avait refusé le ministère de l'éducation après mai 68. Et il devient ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, ce qui lui confère un statut déjà particulier pour le protéger des autres ministères. Puisque le combat de ce premier ministère dit de l'impossible, ça va être de dépouiller les ministères existants de leurs délégations dans l'agriculture, dans l'équipement, dans l'industrie, voire même dans les affaires culturelles, pour constituer un nouveau champ d'action politique. Donc autrement dit, la tâche était très très lourde.
Anaïs Quien.
Oui, on est plutôt habitué depuis quelques années à voir un activisme écologiste davantage de gauche, même s'il existe des écologismes de droite, y compris en France. Hein. Je crois qu'on en a une dizaine de mouvements écologistes en France aujourd'hui. Quel était le chemin politique de ce gouvernement qui nomme Robert Poujade en 1971 pour justifier de l'invention de ce ministère?
Alors, il y a finalement un double constat. C'est le constat à la fois qu'il faut faire aimer l'aventure industrielle aux Français. Hein, c'est Pompidou et les grands projets, également l'adaptation des villes à l'automobile, mais également le souci de protéger le cadre de vie. Déjà une conscience, évidemment, on va pas reprendre les mots de Jacques Chirac, mais une conscience que la maison brûle. Hein. Il y a un fameux discours de Pompidou à Chicago en février 1970, où il dit qu'au moment où s'accumulent les biens de consommation, les biens élémentaires à la vie, comme l'air et l'eau, commencent à faire défaut. Donc finalement, il faut essayer de concilier développement. Voilà, concilier la croissance et la nature, la protection de la nature ou le cadre de vie. Hein, d'ailleurs, les mots vont beaucoup bouger dans ces années 70 entre cadre de vie, qualité de vie, environnement. Et puis, il y a aussi le désir du gouvernement Chaban-Delmas, hein, qui Chaban est resté célèbre pour un discours sur la nouvelle société lors de son investiture. Donc, l'environnement va participer aussi à cette nouvelle société, faire comprendre aux Français que derrière l'urbanisation à marche rapide, il y a d'autres enjeux à l'horizon l'an 2000 pour essayer de faire face aux dégâts du progrès et de la croissance.
Alors, ce que vous disiez, Robert Poujade, dans un entretien que vous aviez eu avec lui pour ce numéro donc spécial de 20e siècle sur les questions environnementales, c'était en 2012, c'est que Georges Pompidou n'était pas à l'abri d'une contradiction. C'était, vous l'avez rappelé, un homme qui aimait l'automobile, qui avait participé au développement des autoroutes sur l'ensemble du pays, etc. Mais qui avait accepté cette idée de ce terme anglo-saxon démarqué du français, disait Robert Poujade dans l'entretien qu'il vous avait donné, de terme d'environnement, qui était une nouveauté. On n'avait pas utilisé ce terme auparavant, ou très peu auparavant, pour qualifier ce que nous appelons aujourd'hui l'environnement, Stéphane Friou.
Georges Pompidou, finalement, est quand même connu aussi pour être conservateur sur certains plans, issu de la France rurale, mais il prend un risque hein, en faisant confiance à Poujade, mais aussi à certains techniciens. Hein. Derrière Poujade, il le reconnaissait aussi dans l'entretien, il y a les hauts fonctionnaires de la DATAR, créés...
La délégation à l'aménagement du territoire.
Voilà, tout à fait, hein, créé sous le gouvernement Pompidou, donc de la présidence de Gaulle, et la DATAR a cherché à aménager des grandes zones touristiques ou des grandes zones industrielles en France, mais aussi à essayer de comprendre ce qui se faisait dans certains pays dits un peu en avance sur le plan d'urbanisation, comme les États-Unis. Hein, et c'est justement aux États-Unis que une poignée de hauts fonctionnaires découvrent cet environnement. Et le transpose finalement très rapidement, puisque la France est un des premiers pays industrialisés à se doter d'un ministère dédié.
Anaïs.
Oui, ce premier ministère de l'environnement, c'est le début d'une acculturation qui n'est toujours pas achevée, en témoigne cette démission de Nicolas Hulot. Quel est le bilan de ce premier ministère de l'environnement, Stéphane Friou?
Alors, le bilan est évidemment en quelques minutes est difficile à résumer. C'est le début d'une acculturation des Français. Moi, ce que je découvre de plus en plus dans mes travaux actuels, c'est
des Français et des hommes politiques.
Oui, oui, mais vraiment des Français. Des Français du bas, des élus qui dans les départements se mettent à écrire au ministère de l'Environnement pour lui demander de défendre telle zone, de refuser telle raffinerie projetée. Et durant les quelques mois qui suivent sa nomination, Poujade reçoit des centaines de lettres qui font finalement un beau témoignage que les Français attendent quelque chose.
Un interlocuteur, en tout cas.
Voilà, un interlocuteur. Donc ça, c'est quand même un premier bilan, c'est que l'environnement, on savait pas trop comment le définir, mais très vite, les Français se le réapproprient, qui pour dénoncer les nuisances, qui pour protéger un parc naturel ou créer une réserve. Deuxième bilan, c'est qu'il sensibilise aussi les industriels. Alors évidemment, on ne parle pas encore de lobby. Il y a des groupes patronaux qui sont là pour défendre les intérêts économiques des grandes branches. Mais le ministère Poujade va très vite concentrer les moyens sur la négociation avec les cimenteries, la sidérurgie, la chimie, pour essayer d'apparvenir à des accords pour réduire les émissions, les fumées. Et les résultats sont là, ce qui prouve que l'industrie pouvait le faire et il fallait un peu plus de volonté politique.
Alors, ce qui est très intéressant, vous avez mis l'accent là-dessus, il y a aussi une prise de conscience des citoyens, dites-vous, Stéphane Friou, dans ces années 70. C'est vrai que ça va être le début du très long combat du Larzac à ce moment-là, qu'il y a des débats aussi autour de la présence des industries polluantes sur le territoire, que j'imagine que c'est lié à la naissance d'un ministère de l'Environnement. Une grande émission de télévision va être créée qui s'appelle La France défigurée, avec Michel Péricard, qui va donc montrer les dégâts d'une modernité sauvage. Ce qui est très intéressant, c'est que vous, dans un dernier numéro donc du mouvement social, vous avez analysé justement une prise de conscience collective à Lyon, la ville où vous enseignez, autour de cette chimie, de cette pétrochimie qui s'est installée à Fézin. Et c'est exactement concomitant avec le ministère de Robert Poujade. Et là, on y voit, sur le terrain, tous les acteurs dont vous parlez, les préfets qui sont chargés d'appliquer la politique du gouvernement, mais aussi les citoyens qui se mettent en association, les élus locaux, et tout cela se fixe sur une deuxième raffinerie qui devrait s'installer dans la région lyonnaise.
Oui, en fait, cela résonne avec un extrait du discours de Nicolas Hulot de cette semaine, qui dit qu'il n'a pas de formation politique pour l'aider, qu'il n'y a pas de société, de mouvement de fond. Et Robert Poujade, lui-même, dans son livre, va insister sur le fait que, pour lui, l'environnement, c'est aussi la démocratie, c'est aussi la participation. Et cette participation des citoyens qui créent des comités de défense, qui font des meetings, des pétitions, rassemblant des milliers de signatures en quelques jours, parfois quelques semaines, montre bien que l'environnement vraiment répond à ce besoin de penser une autre croissance. Hein. On connaît évidemment le rapport du Club de Rome, halte à la croissance
1972.
En 1972. Voilà. Mais ce que j'ai voulu montrer à travers cette histoire que les médias ont qualifié de raffinerie baladeuse, parce que justement c'était une raffinerie dont personne ne voulait. Hein. Il n'y avait pas de ZAD encore, mais c'est l'époque justement où on crée de plus en plus d'associations pour refuser ces grands projets que l'on juge déjà inutiles, et bien tout cela va finalement s'amplifier et il y a des cocktails comme ça de mobilisation médiatique et citoyenne qui dans certains cas sont efficaces hein, puisque dans le cas que j'ai étudié la société pétrolière a fini par renoncer à son projet.
Oui, et vous dites que dans un autre article, qu'en 1975, le directeur des services de l'information, des relations et de l'action éducative du ministère de la qualité de la vie, donc celui qui succédera à cette question de ministère de l'Environnement de Robert Poujade, indiquait que 17 000 associations avaient été recensées en septembre 1974, des associations qui défendaient justement sur le terrain tel ou tel point de la question environnementale, Stéphane Friot.
Oui, c'est à la fois à mettre au crédit des politiques de ces années 70, et puis c'est aussi quand même un petit échec, hein, puisque évidemment ils n'ont pas réussi à vraiment s'attirer la collaboration complète des écologistes, notamment de l'écologie politique, qui est en germe durant ces époques, stimulée aussi par les combats nucléaires. Mais c'est vraiment un kaléidoscope d'initiatives un peu partout dans l'Hexagone que le ministère veut recenser pour essayer de s'appuyer sur les citoyens, justement face aux autres ministères, hein, au ministère de l'équipement ou de l'industrie, à ce que Poujade et puis les militants appellent la technocratie, qui, elle, pense finalement savoir décider une route ou un aéroport sans consulter les citoyens.
Anaïs Kien.
Oui, Stéphane Friot, vous nous avez rappelé l'attente d'un interlocuteur de la part d'une base régionale au moment de la nomination de Robert Poujade. Avec cette liste de 17 000 associations que nous rappelait Emmanuel Laurentin, on voit aussi une effervescence dans les années 70, un intérêt vital même pour ces questions. Du coup, comment expliquer que près de 50 ans après cette invention ministérielle, l'intégration politique de l'écologie soit toujours pas tout à fait achevé dans le paysage politique français?
Alors ça, c'est une vaste question hein, qui réclame aussi finalement des explications peut-être internes au fonctionnement des partis politiques. Ce qui est sûr, c'est que les partis politiques ont intégré un discours écologique, mais qu'il reste, hein, d'autres successeurs de Robert Poujade ont aussi témoigné sur leur expérience, il reste des arbitrages au sommet des structures de gouvernement, que ce soit l'État, que ce soit les métropoles ou les régions, des arbitrages qui privilégient le développement économique vu toujours dans le sceau de la croissance économique, de la création d'emplois, de la défense d'emplois, sans toujours intégrer finalement la dimension de l'environnement dans ces politiques économiques.
Oui, dans cet article que vous consacrez donc au jalon pour une histoire environnementale contemporaine dans le numéro de Mouvement Social de 2018, de la première partie de 2018 de cette année, vous dites qu'il y a une très lente inflexion des pratiques et que cela, il faut l'analyser en tant qu'historien, Stéphane Friot.
Oui,
cette très lente inflexion des pratiques, c'est ce qu'on comprend dans les prétextes de la démission de Nicolas Hulot, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà. Aussi bien dans les structures gouvernementales, aussi bien dans les associations, pourrait-on dire, eh bien, on ne va pas très vite. Et comme le disait Anaïs, ça fait presque 50 ans que ce ministère de l'Environnement a été créé en 1971 avec Robert Poujade.
Oui, pour exprimer ça, j'ai choisi de parler de la transition environnementale. Alors, c'est le titre d'un programme de recherche que je dirige depuis maintenant 2 ans. On a inventé ce nom finalement avant la transition écologique de l'ancien ministère. Et cette idée de transition est là pour exprimer le fait que cette inflexion est extrêmement lente. Que l'on a des prises de conscience dès les années 50 ou 60. Par exemple, la France fait une grande loi sur l'eau pour lutter contre la pollution de l'eau en 1964, donc avant même le ministère de l'Environnement, mais que cette inflexion, elle est paradoxale. Elle est paradoxale, évidemment, jusqu'à nos jours très récents, avec les questions de glyphosate ou de d'autres produits. Et on voit bien cette complexité finalement de l'histoire à l'œuvre quand on étudie non seulement les années 70, mais les années 80-90 hein, également, où l'on peut, à l'époque du ministère Lalonde, voir sur le terrain à la fois la création de commissions municipales d'environnement et puis à la fois des projets de rocades autoroutières qui, évidemment, menacent des terrains agricoles ou des zones naturelles.
Anaïs Kien.
Oui, Stéphane Friou, on entend dans cet extrait de l'entretien de Nicolas Hulot qui va annoncer quelques secondes plus tard sa démission, une grande solitude, un appel à la société civile. Mais on entend bien aussi cette conscience de lui-même, de son action, le sentiment d'être trop subversif aux yeux de ses condisciples du gouvernement, malgré une grande bienveillance. D'ailleurs, depuis ce premier ministère de l'environnement 1971, on s'est habitué à voir défiler une véritable valse des ministres de l'écologie, de l'environnement, quel que soit l'intitulé du ministère, qui finalement marque de son empreinte une forme de ministère peu sérieux, sur lequel on ne peut pas compter peut-être, une grande instabilité, un caractère éruptif de ceux qui sont nommés à ce poste.
Alors, c'est en tout cas effectivement l'un des portefeuilles les plus risqués, hein, ou en tout cas risqués à la fois pour le chef du gouvernement ou le président et pour le titulaire, parce que c'est peut-être le record, la thématique où il y a le record de démission ou de débarquement depuis 40 ans, effectivement.
Sous les mandats de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, on en compte 3 ou 4 à chaque
voilà.
fois.
Voilà, oui, année. Ça a été Nicole Bricq a presque battu un record, effectivement, en juin 2012. Ça montre finalement que ce qu'on avait écrit dans le numéro de 20e siècle de 2012, hein, que le 20e siècle était celui de l'invention politique de l'environnement, c'est réalisé, quoi. L'environnement est vraiment quelque chose de politique, que l'on laisse de côté parfois parce que ça implique trop de révision des modèles de développement et des modèles de concevoir la société et le développement économique. Mais ces personnes qui animent les ministères se défendent, voilà, comme elles peuvent, hein, ou alors décident plutôt de profiter aussi de l'expérience ministérielle, parce qu'on a quelques ministres qui finalement ont eu là l'occasion de leur seule carrière ministérielle. Mmh. C'est d'ailleurs un point commun avec Robert Poujade, qui lui a préféré justement les mandats locaux ou les mandats de députés, mais garder un investissement à travers le Conservatoire du Littoral qu'il avait contribué à créer.
Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce premier ministre de l'Environnement, qui reste 3 ans entre 71 et 74, crée ce Conservatoire du Littoral et devient premier président de ce Conservatoire du Littoral comme une sorte d'application dans les faits, pourrait-on dire, pratique de cette mission qu'il s'était donnée de créer cette question environnementale dans la politique française au début des années 70. J'ai une question peut-être pour conclure avec vous, Stéphane Friou, vous qui avez interrogé différents ministres de l'Environnement, dont le premier Robert Poujade, mais également réfléchi à cette longue histoire de plusieurs décennies d'histoire environnementale et de présence de l'écologie dans la politique en France. Cette archive qu'on a écoutée, parce qu'on peut la considérer, on la décrète comme archive, elle a 3 jours maintenant, cette déclaration de Nicolas Hulot, elle vous a surpris, elle vous a intéressé. Comment la mettez-vous dans la longue liste des déclarations des ministres de l'Environnement depuis maintenant une quarantaine d'années ?
Elle est, comme je vous l'ai dit, elle est assez cohérente hein, avec avec ce que l'on ressent dans un certain nombre de témoignages. Alors évidemment, certains ministres vont cacher un peu leurs échecs, mais quand il dit qu'il est tout seul à la manœuvre, cela me rappelle justement ce que raconte Robert Poujade, qui démarre avec 300 fonctionnaires et 0,1% du budget de l'État.
Voilà. Oui, mais il démarrait. Donc, au moins, il avait cette vertu. Maintenant, voilà. On en est à 40 ans après. Donc c'est bon.
Voilà, mais le nombre de fonctionnaires du ministère n'augmente pas, bien au contraire, depuis quelques années. Donc effectivement, la transversalité de l'environnement pose des soucis à d'autres ministères, hein, sans doute celui des finances et quelques autres. Et donc je pense que derrière les ministres, il y a aussi les hauts fonctionnaires. Hein. En fait, j'ai plus interrogé d'anciens hauts fonctionnaires que de ministres. Mais l'on voit bien que beaucoup de choses se trament aussi dans les négociations entre hauts fonctionnaires. Et là, effectivement, pour le moment, l'histoire montre qu'il y a eu évidemment de grands progrès à force de petits pas, comme disait Nicolas Hulot, mais que l'intégration de l'écologie comme enjeu transversal n'est pas encore achevée, effectivement.
Et vous appelez aussi, en tant qu'historien, Stéphane Friot, est-ce que cette intégration de l'écologie comme enjeu historique devienne plus grand et plus partagé avec la communauté des historiens, parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez nombreux, contrairement aux États-Unis, à réfléchir à ces questions environnementales. Merci beaucoup Stéphane Friot, et on va mettre sur le site évidemment les articles que pourront lire nos auditeurs, donc que vous avez rédigé de cette histoire environnementale que vous êtes en train de créer avec bien d'autres. Merci encore.
Merci.
Et merci à Chantal Nouvelot qui vous a accueilli dans les studios de Radio France à Lyon. Un extrait du Chant de la Terre de Mahler, le deuxième mouvement, le solitaire en automne, l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Bernard Haitink. Et nous recevons notre deuxième invité avec vous, Anaïs Kien, de cette journée du vendredi consacrée à l'actualité, grâce à une actualité qui se croise, une actualité éditoriale, mais également un rejeu, pourrait-on dire, d'une longue actualité du rapport de l'Église à la sexualité. Vous êtes Sylvie Sennberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste de l'époque moderne. Vous êtes l'auteur d'un grand livre sur la bâtardise au XVIe, XVIIe siècle. En 2016, chez Albin Michel, mais également de la confusion des sexes sur le travestissement à l'époque moderne. Et vous avez coordonné avec également Christine Barr, Sandra Boringer, Gabriel Houbre et Didier Lett une histoire des sexualités qui vient tout juste de paraître il y a deux jours au PUF. Alors on a entendu C'était dimanche dernier, revenant d'un voyage en Irlande, le pape s'exprimait sur la question de l'homosexualité. Nous nous sommes dit, bien qu'il y ait eu beaucoup de discours et de débats depuis quelques jours autour de cette question-là, des changements de position, pourrait-on dire, du Vatican à propos de cette déclaration sur l'homosexualité du pape, qu'il était intéressant de revenir sur une plus longue durée sur des positions comme celle de l'Église vis-à-vis de la question des sexualités. Et vous avez écrit en particulier dans cette histoire des sexualités le chapitre consacré à un moment très fort de ce rapport de l'Église ou des Églises à la sexualité ou aux sexualités, c'est-à-dire la période de la Renaissance et de l'époque moderne, Sylvie Steinberg. Alors quand vous avez entendu cette déclaration, mais également tous les débats autour de la pédophilie dans l'Église, est-ce qu'en tant qu'historienne, cela a résonné à vos oreilles ?
Ça résonne forcément, puisque bon, pour la période dont je suis spécialiste, on va dire que l'Église, les autorités ecclésiastiques, les confesseurs, les théologiens sont les grands prescripteurs en matière de sexualité.
Vous voulez dire en matière de pratique sexuelle ?
En matière de normes, de comportements,
de pensées sexuelles
aussi,
d'ailleurs.
D'attitude, de procréation, bien évidemment. C'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas totalement oublié, même si aujourd'hui les déclarations du Vatican ou les déclarations des évêques à propos de la pédophilie ne sont finalement qu'un élément parmi d'autres de tous les discours sur la sexualité qui peuvent être tenus aujourd'hui de manière contemporaine et certainement pas la principale source et de normes et de débats, je dirais, sociaux.
Ce qui était très intéressant dans cette période moderne et en particulier avec l'émergence d'une concurrence à l'Église de Rome, c'est donc la naissance de la religion réformée et donc du calvinisme, du luthérianisme, c'est justement qu'il y a des discours qui vont entrer en, sans trop choquer, pourrait-on dire, dans ce 16e, 17e siècle que vous connaissez bien, Sylvie Steinberg.
Oui, c'est-à-dire que la naissance de la réforme dans les années 1520-1530 à partir du foyer allemand et à partir du foyer français ou flamand avec Calvin s'accompagne de nouveaux discours, aussi de nouvelles pratiques vis-à-vis de la sexualité. Alors bon, ça n'est pas non plus quelque chose de central dans la réforme protestante, bien évidemment. Je ne pense pas qu'il faille maximiser ce type de discours, mais c'est vrai que ça amène une perturbation dans les certitudes, disons, catholiques. D'une part parce que les protestants sont extrêmement sévères vis-à-vis des mœurs du clergé catholique.
Il est considéré comme sodomite
à Rome. Absolument. Rome étant la Babylone. Nouvelle Babylone. Le foyer à la fois, de la dépravation, de la sodomie, etc. Bien sûr, une attaque vis-à-vis du célibat obligatoire, du monachisme, etc. Donc tout ça entraîne un discours, on voit là apparaître une espèce de contre-modèle, d'une certaine façon, qui perturbe beaucoup l'Église catholique en elle-même. Et à terme, cette perturbation, cette opposition aboutit en effet à de grandes réformes dans le clergé catholique qui ne portent leurs fruits que très lentement, très progressivement, suivant les pays européens, suivant l'intensité de ce qu'on a appelé la contre-réforme, mais qui portent ses fruits parce que l'Église catholique va faire en sorte de faire visiter les paroisses par les évêques de façon plus ou moins régulière, mettre l'accent sur la dignité de la fonction sacerdotale, exiger le port de soutane, lutter contre le concubinage des prêtres, etc. Et finalement, au bout peut-être d'un siècle et demi d'efforts de ce type, on a un changement dans l'Église qui se voit en particulier dans ces fameux rapports des visites pastorales des évêques.
Anaïs Quien.
Oui, d'ailleurs, vous indiquez bien dans ce chapitre consacré à la réforme et à la contre-réforme, Thierry Steinberg, que déjà, à l'époque, lorsque les prêtres ont des attitudes indécentes avec leurs fidèles, la dénonciation vient rarement des fidèles eux-mêmes, que c'est bien souvent d'autres prêtres qui font part aux autorités d'un problème dans une paroisse donnée. C'est-à-dire que on voit bien déjà à cette époque-là que la question de la discipline reste quelque chose qu'il faut garder secrète, qu'il faut garder. Les affaires doivent rester secrètes lorsqu'elles arrivent à émerger, ce qui n'est pas toujours le cas.
Oui, alors disons que ce qui est assez intéressant dans la chronologie qu'on a essayé de restituer, que ceux qui ont travaillé sur à la fois les justices d'église, hein, les officialités, et sur ces visites pastorales ont essayé de restituer, et ça c'est vrai pour la France, pour l'Espagne, et même pour le Nouveau Monde, hein, en particulier le Nouveau Monde hispanique, c'est que, en gros, au XVIe et au XVIIe siècle, la question du concubinage des prêtres, en particulier, est une question qui perturbe assez peu les fidèles eux-mêmes. Au fond, ce que déplorent ceux qui font les visites pastorales ou ceux qui engagent des procès d'inquisition, par exemple, dans le domaine hispanique, ce qu'ils déplorent assez souvent, c'est que les fidèles sont assez indifférents vis-à-vis de cette question, et sont finalement...
À partir du moment où le prêtre fait son travail.
Voilà, à partir du moment où le prêtre fait son travail, à partir du moment aussi où, visiblement, ce qui est important, c'est qu'ils vivent comme... ses ouailles, d'une certaine façon, une des choses qu'on leur reproche au moment de la réforme, c'est de cultiver la terre, par exemple, ou de faire de se livrer à d'autres activités que l'activité sacerdotale. À partir du moment où ils sont intégrés dans la vie villageoise, au fond, l'impression, hein, des autorités, c'est que les fidèles s'en préoccupent assez peu. À partir du moment où c'est ce type de comportement est réprimé, les comportements des ecclésiastiques, ceux qui apparaissent dans les archives judiciaires en particulier, changent. C'est-à-dire que ce qui va être mis en exergue, c'est moins le concubinage dont on a l'impression qu'il est en train de disparaître, qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'abus de confiance vis-à-vis des paroissiennes. Et surtout dans le domaine hispanique, la grande question qui va se poser au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est véritablement la question de l'abus de confiance au moment de la confession.
Vous, dans ce livre qui est vraiment complet, très clair et surtout très à jour sur les recherches sur l'histoire des sexualités, vous insistez tous et toutes sur les dernières innovations, les derniers travaux. Vous citez beaucoup de jeunes chercheuses et chercheurs sur ces questions-là. Et vous tentez de comprendre aussi, par exemple, la position des églises, vous-même, vis-à-vis de l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine. Et vous êtes visiblement surprise, Sylvie Steinberg, de découvrir qu'il y a un discours de la répression et une pratique de la répression qui ne sont pas exactement concomitants, Sylvie Steinberg.
Oui, alors c'est vrai que à la fois les Écritures saintes, comme on le sait, hein, avec l'allusion à Sodome, bon, qui est interprétée dans un sens de faire de Sodome la ville des sodomites, hein, bon, à la fois les confesseurs, les théologiens, etc., se sont penchés sur cette question de l'homosexualité, plus exactement de ce qu'on appelle la sodomie, à partir du moment où on la théorise, je dirais, juridiquement, hein, c'est-à-dire à partir, en gros, 12e, 13e siècle, à partir du moment où le crime en tant que tel apparaît, cette sodomie, elle revêt en fait une série de crimes, hein, une série de crimes qui sont à la fois la sodomie qu'on appellerait homosexuelle, la sodomie hétérosexuelle, les relations entre femmes, voire la bestialité, voire dans certains cas, sous la plume de certains confesseurs ou de certains théologiens, la masturbation. Alors cet ensemble de crimes abominables, effroyables, comme on le sait, est passible de peines très très graves, la peine du feu, quand les historiens se sont penchés sur la réalité de la répression de la sodomie, ils se sont rendus compte qu'elle était très fluctuante, en fait, au cours des siècles. Il y a des moments particuliers et des endroits particuliers de répression, que ce soit dans les cités italiennes au XVe siècle, que ce soit à Genève au XVIe siècle, un petit peu à Paris.
Vous dites quand même qu'il y a la Genève calviniste, il y a 50 personnes environ qui sont poursuivies sur un gros siècle.
Voilà, c'est ça. Et donc, la réalité de la répression est vraiment très, très en deçà de l'énormité du crime. Ça, c'est vrai pour les hommes. Quant aux femmes, cette réalité, elle est quasi inexistante.
Anaïs Kien.
Oui, dans cette ambition de transmettre de nouvelles normes, vous dites bien aussi qu'il y a un danger éducatif dans les discours, notamment vous parlez des manuels de confession, dont les rédactions sont fortement surveillées pour éviter de donner des idées que les fidèles et les prêtres eux-mêmes n'avaient peut-être pas avant d'ouvrir ces livres.
Oui, c'est-à-dire que il y a une ambiguïté dans la politique de l'Église, sa politique pédagogique, c'est qu'elle est à la fois à la manette comme principal acteur de prescription de normes et au contact évidemment des fidèles, et ça d'autant plus à partir de la fin du XVIe où s'impose véritablement la pratique de la confession auriculaire, qui était beaucoup moins pratiquée auparavant. Et donc, elle a cette mission,
elle s'est donné cette mission de décrire les comportements, surtout de
donner des équivalences en pénitence des différents péchés. Bon, donc ça, c'est les manuels de confession depuis le haut Moyen-Âge se livrent à ce type d'équivalence, si vous voulez. Le problème, c'est de ne pas suggérer
aux fidèles des pratiques auxquelles ils n'auraient pas
eux-mêmes pensé.
C'est la même chose pour les livres de médecine, dites-vous, parce qu'effectivement, les médecins réfléchissent à des positions qui seraient plus favorables, par exemple, à la procréation, et aux positions sexuelles, ils sont obligés de les exposer dans leurs livres.
Ils s'amusent à le faire, et surtout en langue vernaculaire. Bon, en langue latine, ça pose moins de problèmes, parce que, en gros, personne ne les lit sauf eux-mêmes. Mais quand Nicolas Venette, le grand médecin de la sexualité,
tableau de l'amour conjugal
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, écrit sur les différentes positions sexuelles pour dénoncer les positions non conformes, évidemment, il expose au couple toute une série d'idées et de fait, son livre, qui a eu un succès européen, a été traduit dans toutes sortes de langues, est devenu certainement un des sommets de la littérature pornographique du XVIIIe siècle.
Vous assistez beaucoup, Sylvie Steinberg, dans le chapitre que vous consacrez dans cette histoire des sexualités aux presses universitaires de France que vous dirigez, sur le rôle qu'a joué la découverte du Nouveau Monde, parce que ça a été une façon aussi de mettre de la distance par rapport à toutes ces normes qui s'étaient instituées au bout d'un certain temps dans l'Europe occidentale, la découverte d'autres manières de utiliser son corps, de promener son corps dans l'espace public, d'autres pratiques qui, comme le berdachisme par exemple, qui sont entre des pratiques chamaniques et des pratiques sexuelles, et tout cela trouble considérablement, dites-vous, Sylvie Steinberg, ces Européens qui partent à la conquête de ce nouveau monde.
Oui, il y a un trouble. Il y a un trouble, évidemment, de découvrir d'autres formes de sexualité, d'autres formes de rapports de genre aussi. Vous parlez du berdachisme, donc je rappelle rapidement ce que c'est. Ce sont des enfants qui, dans certaines populations amérindiennes, des garçons sont élevés, habillés en filles et ont des rôles féminins, mais aussi religieux, comme vous venez de le rappeler. Donc il y a une distance, mais une distance qui n'est pas une distance critique, qui est très rarement critique, sauf chez Montaigne de façon assez marginale, mais très rarement critique dans le sens où c'est plutôt un point de départ pour des fantasmes, des fantasmes sexuels d'inversion, en particulier le personnage des Amazones ou ce genre de fantasmagorie. Et comme on le sait, et, je parlais tout à l'heure de l'Inquisition dans le Nouveau Monde, comme on le sait, il y a très très rapidement une imposition de normes catholiques. Hein,
qui sont les mêmes qu'en Europe.
Voilà, qui sont transposées, qui sont imposées aux populations découvertes et qui vont être appliquées de façon extrêmement drastique, là comme ailleurs. Hein, avec, bon, évidemment, une petite interrogation qui demeure sur la relativité des modes de vie occidentaux, de la monogamie, de la répression de l'adultère, etc. Mais bon, je dirais que la distance existe, mais la distance critique existe assez peu.
Vous insistez beaucoup, Sylvie Steinberg, dans ce livre, sur le fait que la sexualité, les sexualités sont un fait social total, pour reprendre un terme classique de l'historiographie, pourrait-on dire, et qu'on peut lire beaucoup des sociétés, évidemment, aussi bien antiques avec Sandra Boringer que des sociétés plus récentes avec Christine Barr, Didier Lett, vous-même ou encore Gabriel Loubre, de ces sociétés par ce prisme-là et parce que, dites-vous, les recherches sur cette histoire des sexualités ont considérablement évolué en quelques années et vous en faites l'écho dans cette histoire des sexualités, Sylvie Steinberg.
Je pense que ce qui apparaît dans nos récits, hein, qui sont des récits évidemment de synthèse, mais très proches des recherches en cours hein, et ou des recherches passées, ce qui apparaît, c'est que la sexualité c'est un fait social. Ce n'est pas quelque chose de qui relève uniquement des interactions individuelles, qui relève de l'intime, qui relève du privé. C'est toujours une affaire publique. Je dirais que c'est toujours une affaire collective, même si je ne veux pas dire d'insanité en disant ça.
Il y a des moments où on le sent peut-être plus que d'autres. Là, les actualités qui mettent en cause la sexualité deviennent entêtantes ces derniers mois.
Oui, parce que on, depuis les années 1970, c'était le grand slogan des féministes, le privé est politique, hein. Non seulement la sexualité, c'est une affaire publique, c'est une affaire sociale, mais c'est devenu aussi une affaire politique, c'est-à-dire c'est une affaire de débat public et tous les grands débats que nous avons actuellement sur la prostitution, sur la pédophilie, sur le viol, sur ou de façon plus apaisée peut-être sur simplement le désir féminin, sont des questions qui sont devenues en effet politiques.
Merci beaucoup Sylvie Steinberg. Il faut rappeler que cette histoire des sexualités est sortie il y a deux jours aux Presses universitaires de France, qu'on y trouve les signatures de Christine Barr, de Sandra Boringer, de Gabriel Loubre, de Didier Lett et de vous-même, et que c'est une somme absolument indispensable dans une bibliothèque parce qu'on y trouve les dernières recherches à jour sur ces questions-là, sur chacune des périodes qui sont traitées, que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne ou l'époque contemporaine. Merci encore.
Merci à vous.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Midi Socialiste, 10 février 1925. Les scandales de Berlin. Berlin. La vieille Allemagne, celle où, suivant le mot de Guillaume II, les femmes ne connaissent que 4 cas, Kinder, Kleider, Kirche, Kuche, enfant, habit, église, cuisine, où les hommes vivaient en pères modèles et en sujets obéissants, s'est effacée. Elle a cédé la place à Berlin à une autre Allemagne, relâchée, entraînée dans un courant irrésistible de plaisir, une véritable foire aux vices humains, paradis des nouveaux riches, des anciens rats de l'arrière enrichis sur le Feldgrau, des épaves de la guerre vivant sur leur ancienne gloire et traînant leurs sabres brisés, des escrocs jouant la note patriotique, des sadiques en quête de raffinements inconnus. Berlin est devenu le rendez-vous de tous les profiteurs de l'Europe orientale et le centre d'attractions les plus variés. Des artères entières, comme le Kurfürstendamm, resplendissent le soir de lumière fantasmagorique, reflétant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et dessinant dans l'obscurité les noms éblouissants des Likorstube, Casino, Diele et Tanzpalast. Au son de musique stridente, depuis la balaïka russe jusqu'au véritable jazz band nègre, un monde hétéroclite donne libre cours à ses débordements. Le journal satirique Hulk représentait dernièrement un Allemand fourvoyé à Berlin dans une de ses rues exotiques, pleine de lieux de plaisirs étrangers avec leurs enseignes écrites dans toutes les langues du monde. « Si je pouvais seulement trouver un endroit, s'exclamait-il, pour manger un bon beefsteak allemand. » Ce qui frappe ceux qui connaissaient Berlin avant la guerre, c'est l'abondance et la variété de la Revolver Presse, feuille de potin et de chantage qui s'étale dans tous les kiosques. Berliner Nachtpost, la poste nocturne berlinoise, Berliner Arène, Die Freundschaft, l'amitié, organe des homosexuels, etc., etc., et que le public, souvent de jeunes lycéens, lit avec avidité. Car la débauche a touché la jeunesse. Un journal satirique représentait un monsieur âgé s'indignant parce que son voisin, un garçon de 12 ans, fumait un cigare. « Il faudrait que vous voyiez ma sœur. Elle est de 2 ans plus jeune que moi et prise déjà par la coco », répond le jeune voyou. Berlin connaît des maisons de jeux clandestines, des cocaïnehallen, où l'on trouve dans la morphine l'abandon complet, des cafés où se réunissent des hommes habillés d'oripeaux féminins, des maisons de danse où le costume n'est pas de rigueur, bref, tout ce qu'un esprit abêti, dégénéré, fourvoyé et malade peut chercher. À travers cette vague de plaisir qui déferle, un observateur impartial découvrira facilement le revers de la vie de la capitale. Les fonctionnaires reçoivent avec les indemnités environ 100% des appointements d'avant-guerre. Mais que peut faire un fonctionnaire modeste gagnant 150-200 marks par mois au prix de 200 marks pour un complet médiocre? Pour se donner l'illusion du superflu, on se prive du nécessaire. On rogne sur la nourriture, mais on va au café et au théâtre. Quant aux ouvriers, il suffit d'aller dans les faubourgs ouvriers, à Neukölln ou à Moabit, pour voir la vie au jour le jour des familles ouvrières dans des logements malsains. Il suffit de prendre le soir le chemin de fer de la ceinture, en 3e, pour voir leurs faces amaigries et leurs costumes fripés, écouter leurs doléances. Il suffit de lire les suicides dans les faits divers. Telles sont les deux faces de la vie à Berlin. La misère coudoie l'abondance, la vague de jouissance couvre la souffrance des masses, l'arrogance domine la résignation. Enfin, l'égoïsme et la corruption se sont infiltrés dans les rouages de la machinerie gouvernementale.
Voilà pour ce C'était à la Une qui conclura pendant cette saison comme l'année précédente toutes nos émissions du vendredi avec le site Retro News de la BNF, de la Bibliothèque Nationale de France. Donc une lecture aujourd'hui par Elsa Dupuis d'un grand texte de la presse depuis 2 siècles. Nous nous retrouverons lundi pour parler de la guerre de 30 ans, 1618-1648, une guerre qui a laissé peu de traces dans notre historiographie française, mais néanmoins beaucoup de traces et beaucoup de souvenirs dans l'histoire de l'Europe centrale et de l'Allemagne en particulier. Ce fut un massacre assez considérable qui s'est terminé par les traités de Westphalie qui ont mis un terme momentané, pourrait-on dire, à certaines pratiques guerrières dont nous parlerons la semaine prochaine et en particulier lundi avec Hervé Drévillon.